Voici le journal de Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour à tous. 24 février, 24 avril, invasion, sanctions, Mariupol assiégé, horreur à Boutcha, offensive sur le Donbass, pas de trêve pour la PAC orthodoxe ce dimanche. Nous reviendrons dans un instant sur ces 8 semaines de guerre en Ukraine. 5 millions de personnes ont quitté le pays en 2 mois, 55 000 familles sont arrivées en France, beaucoup dans l'est du pays où les bailleurs sociaux sont mobilisés pour trouver des logements pérennes à ces familles ukrainiennes. Les Français de retour dans l'isoloir ce dimanche pour choisir entre Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, second tour de l'élection présidentielle. Et puis, nous irons à Bourges où les festivaliers, sous le choc, ont appris hier la disparition du chanteur belge Arnaud.
Et puis, nos invités dans cette matinale, ça commencera dans 20 minutes, Karine.
Rencontre avec une grande dame de la photographie, la reporter de guerre Christine Spengler, tout à l'heure à 7h50.
Et à 8h20, question sur le sourire, ce qu'il révèle de nous. On en parlera avec l'anthropologue et sociologue David Le Breton. Il vient de publier « Sourire, anthropologie de l'énigmatique ». C'est publié aux éditions Métellier.
France Inter. Ces 2 mois qui ont ébranlé le monde, c'était le 24 février dernier, Vladimir Poutine ordonnait l'invasion de l'Ukraine. Depuis, 60 jours sont passés, la situation a évolué, fini l'idée d'une invasion totale du pays sur fond d'extermination nazie. La Russie a dû revoir sa copie pour se limiter à conquérir le Donbass et le sud du pays. Bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour, bonjour à tous.
2 mois de guerre avec une succession d'informations qui ont changé la face de l'Europe et du monde.
Elles semblent loin, ces images de chars russes qui descendaient en direction de Kiev. Pourtant, c'était il y a 2 mois à peine, images fortes symbolisant l'invasion décrétée par Vladimir Poutine. Mais des images, on peut en retenir beaucoup. Il y a celle de ces bombardements russes sur les grandes villes du pays avec ses blessés. Il y a celle du village de Boutcha avec cette rue dans laquelle gisent des corps d'Ukrainiens. Ou encore celle de ces files de réfugiés qui s'enfuient par tous les moyens en Europe. La guerre en Ukraine, c'est aussi l'image d'un homme que l'on prenait pour un clown et qui se révèle héros et chef de guerre, le président Volodymyr Zelensky qui apparaît dans les rues de Kiev pour soutenir la population. Et dernière image, celle du complexe métallurgique d'Azovstal à Mariupol, avec dans ses sous-sols 2000 soldats ukrainiens ainsi que des civils, notamment des femmes et des enfants.
Une guerre qui, à défaut d'être mondiale, Nathanaël, touche cependant l'ensemble de la planète avec des conséquences plus ou moins inattendues.
La première des conséquences du conflit a été d'unir l'Europe comme jamais. Il n'aura fallu que quelques jours pour qu'une série de sanctions inédites s'abatte sur la Russie. L'Europe unie et l'OTAN ressuscitée. Elle retrouve une légitimité nouvelle et signe le retour des États-Unis en Europe. 2 mois de guerre en Ukraine et immédiatement des crises qui s'invitent dans le quotidien de tous. On pense au pétrole, on pense au gaz, on pense encore au prix du blé qui s'envole et qui déstabilise de nombreux pays, notamment en Afrique. Crise énergétique, crise alimentaire, reste enfin une peur que l'on croyait virtuelle, celle d'un conflit nucléaire. Même si les experts se veulent rassurants, on ne peut pas ignorer que la menace a été brandie par le président russe Vladimir Poutine.
Nathanaël Charbonnier, depuis l'invasion russe, 5 millions de personnes ont fui l'Ukraine. 7 millions ont été déplacés à l'intérieur du pays, selon l'ONU, du jamais vu en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. En France, 55 000 personnes sont arrivées ces dernières semaines, mais 10 000 sont déjà reparties, notamment vers l'Espagne, le Portugal. 41 000 Ukrainiens ont été hébergés dans un premier temps dans du provisoire. Ils sont en train de basculer pour certains vers des logements plus pérennes, notamment dans le parc HLM. Les bailleurs sociaux sont mobilisés sur le sujet, sans pénaliser pour autant les familles, bien sûr, qui attendent un logement depuis plusieurs années. Illustration en Auvergne-Rhône-Alpes, région prisée par ces familles de réfugiés. C'est le reportage de Claire Chaudière.
Une chose est sûre, même si ce n'est pas une déferlante, la vague des Ukrainiens arrivés en France est déjà bien plus haute que celle des Syriens accueillis en 2016.
C'est beaucoup plus important. Et c'est des femmes seules, femmes isolées avec des enfants. C'est essentiellement ça.
Marie-Laure Vuitney est la directrice générale du bailleur social Métropole Habitat à Saint-Étienne, qui loge actuellement une 60aine de personnes en urgence dans une ancienne résidence étudiante. Mais la deuxième phase d'accueil, moins provisoire, dit-elle, va bientôt pouvoir commencer.
On est en zone dite détendue, avec de la vacance dans les logements. On a pu identifier à peu près 200 logements sur le sud de Loire. Regardez dans le patrimoine existant les logements louables à très court terme dans des secteurs où il y a des écoles et pas forcément déjà positionnés pour des demandeurs de logements sociaux en attente.
Équation effectivement délicate, installer les familles dans des endroits où elles pourront rebondir sans concurrencer les demandeurs de logements sociaux existants. Emmanuel Cos préside l'Union sociale pour l'habitat qui représente une bonne partie du monde HLM.
Je pense à des logements qui étaient voués à terme à une démolition, qui étaient encore en capacité cessent d'être habitables, ou des logements qui avaient été vidés pour des grosses restructurations mais qu'on peut utiliser quelques mois. Il faut leur trouver des solutions pérennes. On est face à des ménages très fragilisés.
Des familles ukrainiennes qui touchent l'APL mais pas le RSA, précisent les bailleurs sociaux. Beaucoup sont d'ailleurs déjà à la recherche d'un emploi.
Claire Chaudière.
C'est le jour J. Les Français sont appelés aux urnes pour élire le prochain président et choisir, comme en 2017, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
Ouverture du bureau de vote dans moins d'une demi-heure. Premier taux de participation livré à midi. Cela donnera une première indication sur la mobilisation des 48 700 000 électeurs appelés aux urnes. Car avec les trois zones scolaires du pays en vacances, l'abstention pourrait bien être le grand arbitre du second tour de cette présidentielle. En attendant de voir apparaître le visage du gagnant à la télé ce soir à 20h, quelle sera la journée des deux candidats, Anne Souhaitement?
Les caméras, micros et appareils photo seront encore une fois braqués sur les Hauts-de-France puisqu'Emmanuel Macron votera chez lui, au Touquet, à la mi-journée et Marine Le Pen dans sa circonscription, son fief électoral et Nimbeaumont en fin de matinée avant de mettre le cap sur la région parisienne. Le président candidat prendra lui la direction de l'Élysée pour s'isoler jusqu'à 20h avec sa garde rapprochée. Le déroulement de la soirée dépendra ensuite du verdict des urnes. Emmanuel Macron a prévu de retrouver ses supporters au Champ de Mars près de la Tour Eiffel. S'il est réélu, il envisage de prononcer une allocution à la télévision, manière de parler à tous les Français. Décor moins symbolique, plus bucolique pour Marine Le Pen. Soirée électorale au Bois de Boulogne, au bord de l'eau, en lisière de Paris pour la candidate du RN, au très chic pavillon d'Armenonville.
Anne Souhaitement.
L'actualité à l'étranger, c'est aussi l'Inde, où les musulmans sont victimes de la politique du bulldozer.
Le gouvernement vient de mener à New Delhi une grande opération de démolition qui a choqué l'opinion. Les bulldozers ont détruit jeudi dernier, sans prévenir, des dizaines de commerces d'un quartier à forte concentration de musulmans, soi-disant parce qu'ils auraient été construits illégalement. Mais cela arrive juste après des affrontements religieux entre hindous et musulmans. C'est la correspondance à New Delhi de Sébastien Farcy de Radio France Internationale.
Medina marche sur un tas de briques empilées devant sa maison. C'est tout ce que le bulldozer a laissé de son petit magasin de légumes que cette musulmane tenait avec sa famille depuis plus de 30 ans.
Nous avons grandi ici et réussi à gagner un peu d'argent. Et tout d'un coup, ils démolissent tout sans nous prévenir.
Dans ce quartier de Jahangirpuri, à forte concentration musulmane, des dizaines de commerces ont connu le même sort, soi-disant illégaux, donc rasés. Mais cela arrive surtout 4 jours après qu'une procession hindoue violente et illégale y a entraîné des affrontements avec les musulmans. Les nationalistes hindous au pouvoir ont promis de venger les hindous. C'est alors que les bulldozers sont arrivés.
Le bulldozer a détruit la porte de la mosquée, mais il n'a pas touché au temple hindou à côté. Ici, nous avons toujours considéré que Dieu était unique, mais eux font la différence entre hindous et musulmans. Pourquoi ils nous traitent comme ça ?
La même procédure a été suivie dans d'autres états dirigés par le BJP. Violence religieuse suivie de bulldozers contre les musulmans. À New Delhi, la Cour suprême vient toutefois de suspendre l'opération, potentiellement illégale. À New Delhi, Sébastien Farcy, RFI pour France Inter.
Retour sur la mort du chanteur Arnaud, la figure belge de la scène rock, des suites d'un cancer, il avait 72 ans.
Un décès qui intervient en plein renouveau du Festival du Printemps de Bourges, qui s'achève ce soir après 2 éditions 2020-2021, limitées par la crise sanitaire. Au Printemps de Bourges, la mort d'Arnaud était dans tous les esprits. Mathieu Curon.
Le Printemps de Bourges, sous le choc de l'annonce de la mort d'Arnaud, Capucine Sag est chef de projet sur le label du chanteur belge qui venait de terminer un nouvel album.
Il avait la volonté d'enregistrer des titres qu'il avait. Il savait que ça allait être son dernier album. Donc on a fait en sorte qu'il enregistre ses chansons assez récemment à Bruxelles avec son équipe de toujours. Je pense que la musique, c'est clairement... Et quelque chose qui lui a permis de tenir toutes ces 2 dernières années, quoi. J'ai écouté les titres là cette semaine qu'on a reçus. L'album est quasiment terminé. On va voir comment on fait au mieux pour sortir ce disque tout en respectant une période de deuil qui va être, je pense, partagée par beaucoup de gens, quoi.
Malik Djoudi, peu de temps avant son concert, se souvient d'un monument du rock belge.
Un grand parmi les grands, quoi. Je sais pas, quelqu'un d'à part, quelqu'un qui est pas forcément dans les codes, qui fait partie des rares personnes qui me bluffaient, qui me donnaient beaucoup d'émotions. Il en reste plus beaucoup, des gens comme ça. Le sentiment de perdre quelqu'un d'important et de grand dans l'univers francophone.
Arnaud, qui jusqu'au dernier moment aura dédié sa vie à la musique, il aura notamment collaboré avec plusieurs générations de musiciens, de Stromae à Sofiane Pamart, en passant par Adamo.
m'éveilla quelque chose. Quelque chose dont je...
Merci Mathieu Curon.
Dans le journal de Laurence Thomas, le temps de ce dimanche.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules thermiques, électriques ou hybrides, les experts Euromaster veillent chaque jour sur la sécurité des conducteurs.
Jean-Michel Golinski, il y a une dépression sur le centre du pays.
Et oui, elle a une mauvaise idée de se caler donc sur le centre du pays. Elle fait qu'autour des enroulements de temps pluvieux orageux. Toutefois, le nord de la Seine va rester à l'écart. Et puis cet après-midi, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et la région PACA vont retrouver un ciel de meilleur aspect. Alors que partout ailleurs, la journée sera mitigée, ponctuée d'averses, voire de coups de tonnerre, avec des averses marquées sur le Massif central, le centre-Val de Loire, la Bourgogne-Franche-Comté, et de forts cumuls de précipitations à prévoir sur la Corse. Le vent de secteur nord-est sera sensible le long de la Manche. En Méditerranée, tramontane et rafales d'ouest sur la Corse vont souffler vers 80 km à l'heure, avec cet après-midi 11 degrés de maximum prévus à Langres, 12 à Besançon et Dijon, 14 à Lyon et Strasbourg, contre 16 à 20 sur le reste du pays, avec par exemple 16 en moyenne dans le sud-ouest et sur la Corse. Il fera 18 à Nîmes et Orléans, 19 à Rennes et Paris et une vingtaine de degrés sur le Roussillon.
Jean-Michel Golinski, Météo France.